Donc aujourd'hui, dans les 90 minutes qui suivront, on va débattre, on va discuter des chances, des avantages, mais aussi des risques, des inconvénients liés à cette nouvelle technologie. Une nouvelle technologie qui se généralise, qui se diffuse à un point sociétal de plus en plus accru, de plus en plus rapide, donc qui soulève évidemment des grandes craintes, mais aussi des grands espoirs. Donc ce soir, l'idée, c'est avec une série d'experts, que je vais quand même introduire dans un instant, c'est justement de discuter de ces chances, de ces risques, d'imaginer aussi des scénarios d'avenir, donc des évolutions futures, aussi des manières d'anticiper, voire de réguler ces évolutions futures, et tout ceci pour mieux savoir comment donc à moyen, voire à long terme, maximiser les avantages tout en minimisant les risques liés à cette nouvelle technologie. Donc mon nom c'est Francisco Clauser, je suis professeur de géographie, avec Silvana Pedroso, que vous voyez ici à la table, depuis quelques années, on a monté un programme de recherche sur la thématique à Neuchâtel, en géographie. On s'est dernièrement élargi, le groupe grandit, on a maintenant un postdoctorant, Dennis Pauschinger, qui est présent aussi. Il y a deux étudiantes aussi, Léa Stuber et puis Raphaël Razina, qui font des mémoires sur la thématique. Donc il y a effectivement tout un groupe de personnes à Neuchâtel, du côté des sciences sociales, qui réfléchit à justement ces technologies et à ses implications, à ses origines et à ses effets positifs et négatifs. Voilà, donc, cette soirée fait partie d'un ensemble d'activités qu'on a donc initié et qu'on a poursuivi ces dernières années. Je mentionnerai juste deux autres. La première, c'est un projet de Fonds National Suisse qu'on a obtenu il y a quelques années, un projet de 3 ans, donc qui finance justement ce programme de recherche. Et puis un deuxième, c'est une enquête que je citerai tout à l'heure, qu'on a réalisée en 2015 avec une classe d'étudiants de master en géographie. Et dans ce cadre-là, on a réalisé une enquête par questionnaire auprès de la population neuchâteloise. On a contacté 3000 personnes résidant du canton pour connaître l'avis du grand public par rapport à ces technologies, pour savoir quels sont, de ce point de vue-là, les risques perçus, les avantages perçus, les réflexions qui se font, pour encore, à ce niveau-là aussi, trouver des bonnes solutions, trouver des bonnes réponses pour au mieux profiter de ces technologies à l'avenir et pour au mieux éviter ces problèmes. Donc voilà un ensemble d'activités qui se sont initiées, qui se sont déroulées ces dernières années. Et puis aujourd'hui, on a donc une nouvelle activité qui vise notamment à créer un débat, une discussion, un échange. Donc je souhaite que ça soit très interactif, en tout cas dans la partie principale. Moi, je vais poser 2 questions aux intervenants et puis ensuite, je vais directement passer la parole au public dans l'espoir de véritablement créer un échange, une discussion, une interaction entre vous, peut-être aussi entre vous, entre différentes personnes dans le public. On peut aussi imaginer un débat à ce niveau-là, mais en tout cas, n'hésitez pas à interpeller, proposer des questions à nos intervenants, mais aussi à vous exprimer avec vos opinions, avec vos craintes, vos espoirs. C'est aussi le moment pour ça. Voilà donc pour un peu le contexte de cette soirée. Maintenant, donc, on a réussi à motiver 3 autres experts à nous joindre ce soir. Donc, je présente toute la table. Donc, ici à ma droite, Francine Zimmermann, qui est la responsable, la coordinatrice sécurité à l'Office fédéral de l'aviation civile. Donc, l'Office fédéral de l'aviation civile qui est directement touché par la problématique parce qu'il s'agit évidemment d'intégrer un nouveau acteur, un nouveau instrument, une nouvelle technologie dans notre espace aérien, un espace qui est déjà très peuplé, qui est déjà très complexe. Donc cela soulève évidemment toute une série de questions juridiques, mais aussi des questions politiques. Et c'est notamment pour ceci qu'on a invité Mme Zimmermann à joindre notre groupe et puis elle pourra se prononcer sur ces questions-là, aussi sur les réflexions qui se font actuellement à l'échelle fédérale, donc dans cet office fédéral, par rapport à l'évolution de ce phénomène et à la réglementation qu'il faut mettre en place. Ensuite, M. Frédéric Emmeler, grand spécialiste aussi des drones, c'est le directeur général de l'entreprise Fly and Film SA, qui est basée à Sierre, et c'est notamment l'initiateur de la première école suisse de formation pour le pilotage de drones. Donc, c'est l'expert du regard vertical sur l'espace. C'est l'expert de comment apprendre ce regard vertical sur l'espace. Et puis, il pourra notamment se prononcer sur tout ce qui est usage commercial et privé des drones, avec leurs avantages, leurs inconvénients, leurs risques, leurs opportunités. Ensuite, Silvana Pedroso, donc assistante, une doctorante à l'Institut de géographie ici à Neuchâtel. C'est avec elle justement qu'on a monté ce programme de recherche. Et puis, entre autres, elle fait aussi un terrain sur les drones militaires, donc qui sont en Suisse non armés, mais qui sont utilisés depuis de bon nombre d'années. Donc, ce n'est pas tout à fait les drones civils, mais il y a aussi donc une étude de cas qui a été réalisée à ce sujet-là. Et puis, elle pourra aussi, notamment, entre autres, parmi beaucoup d'autres choses, vous parler, si jamais c'est souhaité, de cette étude de cas. Et puis, M. Georges Fischer, donc commissaire principal de la police judiciaire ici à Neuchâtel. M. Fischer est le responsable d'un groupe de travail, d'un groupe de réflexion à la police neuchâteloise, un groupe qui réfléchit justement à l'achat d'un nouveau drone, qui réfléchit aux avantages, aux inconvénients de ces technologies. Donc, M. Fischer pourra partager cette réflexion avec nous et aussi se prononcer sur toutes les réflexions qui se font actuellement au sein d'un corps de police, comme ici à Neuchâtel, par rapport encore aux avantages et inconvénients de cette technologie. Voilà donc pour les intervenants. Je ne vais pas dire beaucoup plus de choses en introduction, si ce n'est je voulais encore partager quatre étonnements avec vous, quatre étonnements initiaux, simplement pour un peu alimenter la réflexion. Ces quatre étonnements qui ressortent de cette enquête qu'on a réalisée en 2015 auprès de la population neuchâteloise. Donc je vous les lance simplement comme ça, dans l'optique, dans l'idée de vous faire réfléchir, de susciter des questions qui pourront ensuite justement se poser dans la deuxième partie, la partie principale de la discussion ce soir. Alors, premier étonnement, et je ne vais pas le commenter, je vais simplement le poser. Premier étonnement, pas tous les drones sont perçus de la même manière par le public. 23% de la population neuchâteloise seulement, 23% seulement sont favorables à l'usage de drones à vocation commerciale. Donc pour tout ce qui est photographie aérienne commercialisée. Ça peut être pour tout type de déploiement, hein. Ça peut être pour des films de publicité, pour des photographies aériennes, etc. Mais 23% de la population est favorable à ce type de drones, alors qu'on passe à 72% d'avis favorables pour ce qui concerne l'usage du drone policier. Ça va faire très plaisir à M. Fischer. Donc 72% de personnes favorables à l'usage du drone par la police, 23% favorables à l'usage de drones commerciaux. Deuxième étonnement, on parle souvent d'une sorte de démocratisation de ces technologies, mais si on regarde exactement qui a un drone, en fait, vous n'êtes pas très représentatif aujourd'hui parce que vous êtes beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait attendre point de vue statistique sur l'ensemble du canton. Si on regarde donc concrètement qui a déjà piloté un drone, on voit que 16% de la population masculine neuchâteloise dit déjà avoir piloté un drone. 16%. Ce chiffre, il tombe à 1,8% pour les femmes. 1,8% de femmes, 16% d'hommes. 17% de la couche de la population entre 20 et 34 ans. Les jeunes, voilà, on s'amuse avec cette technologie. 3,5% pour la population entre 65 et 79 ans. Voilà, donc plus on est jeune, plus on utilise des drones, plus on est homme, plus on utilise des drones. Voilà, prolifération, démocratisation, pas tout à fait. Troisième étonnement, prolifération, démocratisation, pas tout à fait pour le moment, mais si on pose la question à la population, une immense majorité s'imagine une véritable explosion du nombre de drones en usage d'ici 10 ans. 39% pensent que le nombre de drones d'ici 10 ans va soit doublé jusqu'à se multiplier par 10. Donc, 40% environ de la population pense qu'il y aura une multiplication de 2 à 10. 38% pensent même qu'il y aura une multiplication entre x10 et x20. Donc 80% de la population prévoit une véritable courbe exponentielle, à voir si ça se vérifie, mais en tout cas, du point de vue de la population, il y a une attente forte à ce que ces technologies se multiplient, se diffusent, se généralisent encore beaucoup plus. Quatrième étonnement, et je vais clore là-dessus, 68% de la population craint un attentat terroriste avec les drones. 68% a peur que les drones soient un jour utilisés pour un attentat terroriste. 87% pensent que les drones, c'est simplement des caméras de surveillance mobile, donc qui soulèvent des questions en termes de sphère privée, en termes de protection des données. 87% souhaitent ainsi être mieux informés par rapport à l'usage du drone. Voilà pourquoi on en débat aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je vais maintenant passer la parole aux intervenants, simplement en leur posant deux questions de départ. Donc, à M. Fischer, à M. Emmeler, je vais poser la question, quelles sont les chances, le potentiel lié à cette technologie? À Mme Pedroso, à Mme Zimmermann, je vais demander quels sont les grands risques liés à cette technologie. Donc, je propose de commencer peut-être par M. Emmeler, M. Fischer ensuite, Mme Zimmermann, Sylvain. Voilà,
merci. Allô, voilà. Bonjour déjà. Donc, je voulais juste encore peut-être préciser une toute petite chose. Moi, je suis issu du monde de l'aviation civile. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans comme pilote d'hélicoptère. Je le dis parce que ça a été un basculement assez impressionnant pour moi il y a 3 ans quand on a commencé avec ces histoires de drones. Je pense qu'on rentre véritablement dans une nouvelle ère de l'aviation. C'est très excitant pour un jeune qui a été élevé avec cette passion de l'aviation. On a l'impression d'être, je ne veux pas être trop pompeux, mais un nouveau Hermann Geiger du drone. On essaye de voir les perspectives. Et en effet, il y a quelque chose de très intéressant dans le drone. Au niveau des chances, alors d'abord, il y a évidemment, on l'a vu dans ces statistiques, une certaine peur qui est compréhensible. C'est humain. Il y a une certaine peur de la robotique. On connaît tous les problèmes de Tesla, qui sont des drones roulants. Il y a une certaine peur, et je dirais même presque une obsession au niveau de la loi de la protection des données. Je ne sais pas, ceux qui ont ici un drone, si vous avez déjà essayé d'aller filmer votre voisin ou votre voisine sous la douche, ce n'est pas ce qu'il y a de plus discret d'abord, je dirais. Et puis ensuite, les drones, généralement, ne sont pas... Une longue vue achetée chez MediaMarkt vous coûtera beaucoup moins cher, sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus discret. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Les chances, elles sont multiples, à mon avis. Le drone peut intervenir dans certaines situations là où l'humain prend encore aujourd'hui des risques. Et je pense que là, il y a véritablement quelque chose à faire. On veut de plus en plus mitiger le risque. Ça fait partie un petit peu de notre vie, de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et puis on veut aussi diminuer, d'un autre côté, les responsabilités des uns et des autres. Je pense aussi qu'au niveau des chances, on se rend compte qu'on est maintenant à un tournant. Certains d'entre vous ont déjà peut-être entendu parler du CES de Las Vegas, qui est le Consumer Electronic, la foire du Consumer Electronic. Le drone a été extrêmement présent les 5 dernières années. On a observé maintenant un tournant définitif. Le drone de loisir, on a fait plus ou moins le tour. Et on est en train de partir maintenant vers le drone commercial. Le drone commercial, il rentre dans le domaine de l'aviation. Et là, on parle de quelque chose de tout à fait différent. On doit faire des proof of concept, comme on dit. On doit certifier les choses. Et finalement, je commence gentiment maintenant à me retrouver dans un monde que je connais, qui est celui de l'aviation, sauf que je reste un petit peu au sol, voler me manque. Et il faut que les choses évoluent aussi dans cette direction-là, technologiquement et pour le reste. Donc les chances, elles sont multiples. Je peux vous donner comme ça quelques applications pour lesquelles je vois un avenir plutôt florissant. Et entre autres, nous, on a développé un drone d'épandage. Alors, ça a un tas d'avantages. D'abord, le bruit. Tout le monde se plaint du bruit. On fait beaucoup moins de bruit. C'est écologique. Il n'y a pas de compactage des sols. Il n'y a pas d'exposition de personnel aux produits phytosanitaires. Et je pourrais vous en rajouter encore plein, mais je ne suis pas venu ici pour faire la promotion du drone d'épandage. Il peut y avoir le déclenchement d'avalanches, typiquement, ou très souvent le déclenchement de la sécurisation de pistes de ski dans les domaines skiables, donc. se font encore à peau de phoque. Le pisteur monte justement spécifiquement à l'endroit dangereux en peau de phoque pour sortir de son sac à dos un bâton de dynamite et puis le balancer à la main. On peut imaginer que la mitigation du risque de ce côté-là est quand même relativement belle. Et il y a plein d'autres domaines, entre autres dans le sauvetage probablement, et on a la chance de vivre dans un pays très montagneux, où le drone peut véritablement apporter une plus-value. Maintenant, au niveau de la législation, ce qu'il va devoir faire, ce qui va devoir être une réalité à moyen terme, c'est de séparer le drone d'amusement, qui est une réalité. Les gens ont le droit de s'amuser avec un drone dans leur jardin, ils ont envie aussi de s'amuser avec un drone dans leur jardin, et le drone commercial qui, lui, devrait pouvoir évoluer dans un cadre peut-être plus aviation compatible, si on peut dire, mais peut-être avec des possibilités aussi de développement qui sont un petit peu moins strictes que ce que notre loi, encore très libérale, hein, ici en Suisse, permet véritablement. Mais là, je crois que Mme Zimmermann en parlera beaucoup mieux que moi.
Merci beaucoup, M. Fischer, pour compléter.
Bonjour à tous. On m'entend ? Ok, je n'ai pas l'impression, mais bon, voilà. Alors moi, je ne suis pas pilote du tout. Hein. La seule chose que je pilote, c'est un groupe de travail là où je travaille. Dans l'échange, j'en ai listé quelques-uns. Je vais être assez rapide. Je crois qu'il y a déjà eu un bon dégrossissement. On a la chance, et je suis d'accord avec M. Klauser, qu'il y a eu une non-prolifération. Je pense que la prolifération des drones s'est plutôt remarquée au niveau des tirs à caisse et au niveau de l'impact médiatique qu'il y avait depuis un certain nombre d'années autour de ce sujet. On a la chance aussi qu'il y a finalement eu très très peu d'accidents. De par le monde, on a vu qu'il y a quand même des choses tragiques qui se sont passées. Mais sur le plan roman, j'ai pu constater que finalement, les événements étaient quasi inexistants. Neuchâtel, nous n'avons aucun événement, aucune plainte, rien, pas d'accident signalé. Au niveau des utilisateurs, c'est vrai, il y a le citoyen qui peut commettre des infractions. Je crois que là, je constate qu'avec toute l'utilisation des drones, que finalement, le citoyen est quand même assez respectueux de la législation qui est actuellement en vigueur. Et je dirais aussi qu'au niveau des professionnels, ce sont des gens qui tiennent à leur job, qui tiennent à leur matériel, qui tiennent à leur reconnaissance, à leur réputation. Donc, eux aussi sont ouverts à scrupuleusement respecter la législation. On voit aussi des choses au niveau des chances que, par exemple, il y a certains fabricants qui insèrent dans leur boîte des flyers de l'OFAC, ce que je trouve très intelligent, ce qu'on devrait peut-être demander à tous de faire. L'évolution technologique, effectivement, ça a été abordé aussi, apporte aussi une énorme assistance au pilotage, diminue les risques d'accident, ça c'est une immense chance aussi. Une chance aussi au niveau technologique, il y a certains fabricants qui programment leurs appareils pour justement éviter qu'ils survolent certaines zones ou qu'ils dépassent certains paliers, certaines altitudes. Donc c'est une chance. On a la chance d'avoir une législation qui est justement adaptée. Et puis il y a tout un pan d'activités, de recherches qui se développent au niveau de la DCA drone, on dirait. Parce que ben nous, en tant que policiers, ce qu'on voit, c'est un petit drone qui va survoler une centrale nucléaire, une cour de prison, un centre-ville bondé de monde à la fête des vendanges. On voit ce genre de choses. Donc, une défense contre drone, il y a des choses qui se développent, mais il n'y a rien encore sur le marché qui soit véritablement la référence. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu certaines choses à ce propos. Il y a des brouilleurs d'ondes, il y a des lanceurs de filets, il y a des canons à filets, il y a des drones anti-drones, et il y a même des rapaces qui sont dressés pour intercepter des drones en vol. Voilà. Donc tout ça, c'est un petit peu un éventail de chances que je pense être mérité d'être soulevé ici.
Merci beaucoup. Passons au risque avec Mme Zimmermann.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, peut-être il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Peut-être avant de commencer avec les risques, un petit rappel de la législation suisse. C'est vrai qu'en comparaison européenne ou internationale, on a une législation qui est vu comme libéral, qui est aussi souvent critiqué, aussi en Suisse. En fait, en dessous d'un poids de 30 kilos, pour autant qu'on ne vole pas à 5 kilomètres d'un aéroport, un aérodrome, et puis qu'on ne vole pas à plus de 100 mètres d'un groupe de personnes de plus de 24 personnes, on n'a pas besoin d'autorisation. Tout ce qui est en dehors de ce cadre est soumis à l'autorisation de l'OFAC, donc il faut d'abord nous contacter, venir expliquer quelle est l'opération prévue, et puis après nous on étudie le cas et on va vous donner, ben, par exemple, Monsieur Himmler est vraiment une très bon exemple, parce que pour son cas dans l'agriculture, il est venu chez nous et puis il a reçu son autorisation il y a quelques semaines, si je me souviens bien. Je pense que c'était la première en Europe. Ouais, voilà, exactement.
Visionnaire. Ouais.
Donc, ouais, merci beaucoup. Donc, visionnaire, je dirais peut-être aussi pionnier. Dans les risques, ce que je vois, c'est que l'innovation, elle va extrêmement vite. Le développement des drones, enfin, je veux dire, c'est incroyable, c'est fulgurant. Au niveau de la législation, ça va évidemment moins vite. On a toujours 2-3 longueurs de retard par rapport à ça. Donc, dans les risques que je vois, c'est que, en raison d'une législation trop stricte, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais je veux dire, vu les critiques, voilà, ça peut toujours changer. J'aimerais pas que ça soit ensuite un frein à l'innovation. On a beaucoup d'industries en Suisse, on a des start-up de l'EPFZ, de l'EPFL, on a vraiment beaucoup d'innovation. Donc ça serait vraiment un frein à l'innovation si, en raison de certaines peurs qui sont aussi légitimes, on stoppe en fait toutes ces utilisations. Il y a énormément d'utilisations bénéfiques. Évidemment, parmi les risques, il y a les utilisations aussi comme des fins terroristes. Ça, c'est clair que c'est une réalité qui existe. Et puis, je veux dire, on n'a pas de solution actuellement. Les terroristes ont aussi toujours une longueur d'avance. Je veux dire, si on voit les derniers mois, tout ce qui s'est passé entre les attentats de toutes sortes, avec des camions, avec des voitures, évidemment, c'est un risque. Mais si je prends les risques plutôt positifs, c'est vraiment d'essayer avec le cadre réglementaire de ne pas freiner l'innovation, et aussi que l'industrie comprenne qu'on a besoin de temps, parce que on doit collecter des données, on doit faire aussi demander des occurrence reporting, comme Monsieur Fischer a raconté. On a actuellement des safety records qui sont excellentes. On n'est pas conscient de vraiment d'accidents avec les drones, de graves problèmes. Peut-être c'est parce que ça n'a pas été reporté, peut-être c'est parce qu'il n'y en a pas. Mais je veux dire, au final, c'est l'OFAC qui donne des autorisations pour toutes les opérations avec des drones qui sont en dehors du cadre que je vous ai énoncé. Donc, on a une part de responsabilité, on est le régulateur, mais on est aussi le facilitateur. Donc, il faut nous laisser du temps pour connaître un peu plus le cadre, et puis pour récolter des données, et ensuite permettre des opérations, disons, plus complexes, avec des appareils aussi plus complexes.
Sylvana Pedroso.
Alors, moi, je parlerai... Je ne sais pas si vraiment de risques, mais en tout cas d'enjeux qui sont liés à ce que vous dites. On remarque que la population neuchâteloise, finalement, elle demande quelque chose à 87%. La population souhaiterait être mieux informée. Ça veut dire qu'ils ont justement des doutes sur comment utiliser le drone, qu'est-ce qu'ils auront le droit de faire, est-ce qu'ils ont le droit d'être filmés. Les gens ne savent pas forcément si un jour ils ont été filmés par un drone ou pas. Et puis finalement, je me demande si ce genre de phénomène ne peut pas amener justement à des politiques un peu restrictives, parce que quand on ne connaît pas, on en a peur, on préfère restreindre les utilisations que de les utiliser. Donc est-ce que justement le fait de ne pas savoir exactement qui utilise les drones, est-ce que les militaires en ont, est-ce que la police neuchâteloise en a, est-ce que les privés ont le droit de les utiliser tout le temps, est-ce que finalement c'est pas un problème et un risque? Tout simplement que la population freine justement cette émergence parce qu'elle elle est désinformée, ou en tout cas elle connaît très peu les drones. Et puis au-delà des risques qu'on a pu évoquer de terrorisme, il y a aussi la question du piratage, qui ramène à une question assez fondamentale, c'est qui est derrière les données qui sont récoltées, que ce soit du côté de la sphère privée ou de la sphère publique. On ne sait pas vraiment ce que sont faites, qu'est-ce que ces gens font de nos données, qui les a vraiment en sa possession, Mais c'est finalement la même chose avec nos réseaux sociaux. Qui a les données qu'on a sur, qu'on peut mettre sur Facebook ou quand on est en train d'utiliser notre smartphone, une application genre GPS ou Google Maps. Finalement, qui est derrière toutes ces données qu'on est en train de transmettre, des fois de manière inconsciente? Est-ce que ces données vont être vendues, effacées? Est-ce qu'il y a un temps pour ses propriétaires de les garder? Donc il y a vraiment une question, je pense aussi, d'informations liées à cette utilisation qui sont faites ensuite de nos données et peut-être un risque de mal percevoir ce qui peut être fait, est-ce qu'il peut y avoir des abus ou pas, fait par que ce soit du côté étatique ou civil, et qui peut, à mon avis, être une crainte auprès de la population et qui ressort aussi dans la littérature scientifique que j'ai pu lire jusqu'à présent.
Okay, merci. Vous voulez compléter ?
Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Il y a la fascination déjà de l'aérien, quelque part. Ça fait combien d'années que sur les pistes de ski, quand vous faites la queue au télésiège, le type devant, le type derrière, ils ont une GoPro sur la caméra avec la petite lumière qui clignote, et que ça ne nous dérange a priori, pour ainsi dire, pas. Alors je pense qu'il y a aussi cette fascination en fait de l'aéronef en fait qui vient d'au-dessus puis qui vient vous filmer. La loi sur la protection des données que vous citez, moi je pense qu'en grande partie elle est intéressante à lire, mais c'est du bon sens. Sur la plus grande partie. C'est en tout cas ce qu'on essaye d'enseigner, hormis les points qui sont vraiment nécessaires à transmettre dans le cadre des formations qu'on donne. Mais c'est vrai que finalement, au fond, et je pense que dans notre société, on a perdu un petit peu ça, parce qu'on légifère sur tout, désolé, hein, Madame Zimmermann, mais il y a aussi du bon sens. Et puis avec du bon sens, des fois, on va peut-être un petit peu plus loin, et puis le bon sens, il passe aussi par la formation.
Alors, je profite pour juste rebondir là-dessus. Simplement, je propose d'aller dans l'autre sens des intervenants. Donc, c'est Sylvana qui va commencer la réponse. Donc, on a parlé maintenant des risques, des chances. Donc, sur quel niveau agir pour au mieux préparer l'avenir? Faut-il légiférer? Faut-il appeler au bon sens? Faut-il faire des campagnes d'information? Qu'est-ce qu'il faut faire ces prochaines années pour... Ben voilà, éviter le pire pour optimiser le positif, pour minimiser le négatif.
Voilà, donc comme je disais, pour moi, il y a vraiment une question d'information à la population, à tous les utilisateurs, que ce soit justement les privés ou les publics, qu'ils puissent tout simplement utiliser la technologie à bon escient et puis essayer de faire au mieux avec les connaissances qu'ils peuvent avoir sur le moment. Donc il y a vraiment à mon avis, des campagnes d'information, mais aussi juste dans la presse, qui puisse informer le public, parce que typiquement, on a pu remarquer dans notre enquête que la plupart des gens, alors qu'on utilise les drones militaires depuis 1995, la plupart des gens ne savent pas forcément qu'ils sont utilisés dans les zones frontalières ou même lorsqu'il y a certains événements politiques ou sportifs. En ce qui concerne les drones policiers, pareil, il y a beaucoup de gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient utilisés pour justement des accidents ou pour des zones où il y a eu... des problèmes de délit. Donc, il y a vraiment, je pense, quelque chose qu'on peut faire d'un point de vue de l'information. Et puis, peut-être autre chose, c'est d'essayer de trouver le moyen, et ça, ce serait une question, c'est comment vérifier finalement que la législation peut être est respectée et appliquée. Pour moi, c'est vraiment une question, parce que c'est très bien, même si les gens sont informés et qu'ils essaient de faire au mieux, mais comment trouver un moyen où finalement, si quelqu'un fait vraiment quelque chose qui ne devrait pas, qu'il y ait quelqu'un pour répondre à ce problème, en fait. Parce que j'imagine que s'il y a, je ne sais pas, un drone qui vole à quelque part, qu'on sait très bien qu'il ne peut pas voler, ou les autorisations ne sont pas faites, qui est finalement là pour le voir et peut-être le détecter, pouvoir informer, bah, que ce soit la police ou l'OFAC de ce problème. Donc comment trouver le lien entre la législation et puis après vraiment la mise en pratique de ce problème. Je sais pas si vous pouvez.
Allô? Oui. Alors je pense que vous avez soulevé un point très 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 important, c'est notamment l'identification. Et ça, vous savez peut-être que ça a été un sujet déjà, je pense, l'été passé, l'identification et la registration des drones. Donc, enfin, typiquement, actuellement, il n'y a pas de moyen, à part évidemment si quelqu'un voit une personne avec un drone dans une zone qui est interdite et puis arrive à identifier la personne et puis, disons, à l'annoncer. Actuellement, il n'y a pas de moyen de voir en fait qui se comporte dans le cadre de la législation et qui pas. Mais il y a des discussions depuis maintenant déjà plus d'une année aussi au niveau européen par rapport à la registration et puis l'identification. Il y a le règlement de base de l'EASA, qui est l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, qui est en révision depuis maintenant un peu plus qu'une année. Et puis il y a une proposition du Parlement qui est de en fait rendre obligatoire l'enregistrement et puis l'identification de tous les drones à partir de 250 grammes. Donc ça, c'est encore des discussions en cours. Si ça passe, ça voudra dire que ce sera appliqué à toute l'Europe, y compris à la Suisse. Parce qu'en fait, actuellement, les drones en dessous de 150 kg, ils sont dans la compétence des États membres de l'Union européenne et aussi de la Suisse. Donc, je veux dire, chaque pays régule comme il veut les drones jusqu'à 150 kg. Mais dans les modifications législatives au niveau européen, c'est aussi l'idée d'avoir dans la compétence de l'Union européenne tout ce qui est des drones en dessous de 150 kg. Donc, c'est quelque chose qui va venir. Nous, évidemment, actuellement, dans la législation, on n'a rien. On a eu des contacts aussi avec, l'industrie nous pose des questions. Ils sont intéressés aussi à savoir quelles sont les solutions. Certaines entreprises pensent à des solutions avec différents systèmes pour identifier les drones. Nous, on attend vraiment que l'industrie vienne vers nous et puis, des propositions. On ne va pas proposer quelque chose parce que c'est imminent qu'il va y avoir quelque chose au niveau européen, voire au niveau mondial. Et on a tout intérêt à avoir un système qui est compatible. Ça veut dire qu'un drone acheté en Suisse pourra être identifié en Italie. Un drone acheté en Italie et qui sera volé en Suisse, on pourra aussi l'identifier parce que le système sera compatible. Donc, du côté de l'OFAC, on va rien faire pour l'instant parce qu'on attend vraiment qu'une solution vienne du côté de l'industrie. Il y a deux groupes de travail, notamment, vous avez peut-être entendu parler du UTM, qui est le Unmanned Traffic Management, qui est en fait l'équivalent pour l'aviation habitée du ATM, du Air Traffic Management, qui est en fait l'idée d'avoir un système, un peu en sorte de réseau, ou avec des softwares qui se communiquent et puis qui détectent les drones, qui se détectent les uns entre les autres, et puis qui s'évitent également. Donc, dans le cadre de ces discussions, il y a, d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir des résultats, et on devrait en savoir plus. Donc, je pense que le jour où on sera à un point où on pourra assurer une identification et donc qui ne se comporte pas en dehors du cadre de la loi, ça va aider notamment toute la discussion au niveau privacy et puis niveau acceptation du citoyen. Et puis, et peut-être aussi après l'impunité, vraiment montrer que l'impunité n'est plus actuelle. Je ne sais pas si Monsieur Fischer, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Bah, j'imagine côté du côté de la police, vous êtes aussi impliqué dans ces discussions. Enfin, je ne sais pas si je peux lui.
C'est super, c'est parfait, ça suit le bon ordre.
Alors je prends la main. Oui, donc adapter la législation en fonction de l'évolution de la situation paraît bien. Il ne faut pas perdre de vue que concrètement, la majeure partie des utilisateurs vont gentiment utiliser leur drone comme ils l'ont acheté, jusqu'à ce qu'ils se cassent la figure, jusqu'à ce que les batteries soient mortes, etc. Mais de l'autre côté, on a quand même soit les terroristes, soit les petits reporters en herbe qui vendent leurs informations, qui déjoueront tous les systèmes d'identification et qui déjoueront la programmation informatique qui empêchera de pénétrer dans certains lieux. On a vu quelques épisodes dans une ville, je crois que c'était à Paris, où au début des drones, on voyait les médias qui lançaient des drones dans les villes pour couvrir un événement. Alors bon, on a interdit l'accès dans les cités, dans certains endroits, etc. Mais il ne faut pas oublier que, comme toute chose, on va embêter la majeure partie des gens et on ne pourra rien contre les situations extrêmes. Par exemple, ce que j'ai cité, donc les utilisations par les terroristes ou des délinquants. Alors voilà, il y a un terme qu'il faut retenir. Voilà, c'est à mon avis, c'est l'information. L'information conduit à la prévention. Je pense que l'utilisateur de drone, il doit savoir à quelle porte toquer. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, a personne qui ignore l'existence de l'OFAC, j'espère. Mais je pense qu'il y a aussi, au niveau des commerçants, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses à faire. Nous, à la police, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Donc, on communique l'information au travers de ça. On peut donner de la publicité à ce qu'on peut constater. On pourrait, à l'image des journées motards, organiser des journées drones, enfin une journée drone, par exemple, si par bonheur notre grand argentier de l'État nous en procure un meilleur que celui qu'on a maintenant. Et puis c'est vrai que, je pense que là, il y a vraiment des portes à ouvrir. Aussi, les assurances qui couvrent des accidents, etc. Enfin voilà, les gens, il faut qu'ils aient plusieurs façons d'ouvrir des portes pour avoir des réponses à leurs questions.
Monsieur Emmaler.
Moi, je pense que vous allez me dire que je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais la formation, je crois que c'est une réponse à pas mal de problèmes, déjà. Pourquoi réinventer la roue ? Je sais que ça gêne certaines personnes. Ça me fait penser dans les années 80, quand on a eu les pilotes de parapente et les pilotes de Del Delta, qui ont déferlé sur la Suisse en revenant de Californie, où ils avaient été s'amuser au bord de la plage et puis ils avaient ramené une petite aile. Qui sautaient de nos belles montagnes et puis à qui on a dit tout d'un coup « Ah, ben maintenant, il faut faire une licence. » C'est comme ça qu'on responsabilise finalement les gens. Les former, c'est bien. Alors, je ne veux pas être trop critique non plus. J'ai vu, évidemment, le flyer de l'OFAC. Il est bien pour un usage dans son jardin, entre guillemets. Il est insuffisant pour avoir la big picture de ce qu'est véritablement la législation en Suisse. Ensuite, vous allez le trouver dans tous les drones que vous aurez achetés dans un magasin de modèles réduits ou à la FNAC ou bien en Suisse. On dit qu'il y a 22 000 drones qui volent en Suisse. Est-ce que dans les 22 000, on compte tous ceux qui ont été commandés sur Banggood en Chine, qui ont été commandés sur Alibaba, qui ont été ramenés de... À mon avis, pas. À mon avis, pas. Ensuite, il y a toute cette partie dont on a parlé tout à l'heure qui est l'enregistrement des drones, qu'on puisse les repérer. Alors, Fly and Film, on est dans ce groupe de travail justement avec CITA, l'OFAC, sauf erreur, fait aussi partie, hein, et Skyguide. J'ai eu la chance de travailler pendant 19 ans comme instructeur pour les contrôleurs aériens chez Skyguide, donc j'ai encore quelques petites entrées et je me suis engouffré là-dedans pour participer à cette aventure qui, à mon avis, est géniale. Mais identifier quelqu'un qui fait quelque chose de faux ou quelque chose, en l'occurrence pas quelqu'un, vu qu'il n'y a personne assis à bord, quelque chose qui fait quelque chose de faux. Alors, c'est peut-être bien, mais ça ne règle pas le problème.
Merci beaucoup à vous tous. J'ai évidemment encore énormément de questions, mais je vais pour le moment les garder pour moi. Simplement pour passer la parole au public, faire en tout cas un bon premier tour de questions. Ça me permettra aussi de savoir un peu dans quel sens vos inquiétudes, vos questionnements, vos réflexions vont aller. Donc je propose peut-être dans un premier temps, on va simplement faire le tour, on va collectionner quelques questions, peut-être 3-4 questions qu'on va ensuite soumettre à nos experts ici. Donc quelques questions s'il vous plaît. Merci.
À l'époque, la poste se donnait de la peine et par exemple la postière, parce que c'était une postière de Weistanen, elle faisait 2 heures de ski pour aller à Sargans et remonter pour chercher les paquets et les lettres. Aujourd'hui, la poste qui ne veut plus distribuer les choses dans les fermes isolées, elle veut les amener avec des drones. Et ça m'intéresserait de savoir comment ça va se passer avec ces drones. Est-ce que les drones vont laisser tomber les colis devant la ferme ou comment est-ce que le paysan peut manipuler ce drone pour recueillir ses lettres en pratique, c'est ce qui m'intéresserait. D'avance, merci.
Merci à vous. Merci. Donc, je garde la question. Je la passerai tout à l'heure aux intervenants. Peut-être 2-3 autres.
Oui. C'est pour répondre ce que ce si monsieur a dit.
En 2 mots, juste dire d'où vous venez, peut-être que vous avez même un lien avec les drones, si jamais, donc n'hésitez pas à vous répondre.
Je suis étudiante en ethno et en géographie. Voilà. Et puis, pardon ? Alors, je suis étudiante en ethnologie et en géographie. Et je voulais renchérir par rapport à ce qui vient d'être dit c'est que j'ai vu que la Poste, ils ont engagé des drones pour transporter les médicaments. Mais du coup, je me demandais si ça ne faisait pas perdre des emplois, du coup. Ou peut-être... je pense qu'il y a un enjeu derrière et je me demandais comment ça se passait par rapport à ça.
Oui, je vois.
Je profite du micro qui est par ici. Alors, je ne suis pas du tout du domaine ni de l'ethno ni de la sociologie. Par contre, j'aurais été intéressé de vous demander, c'est plutôt police maintenant, mais est-ce qu'on peut voir apparaître des groupes d'intervention anti-drones ? Alors, vous avez parlé des faucons qui étaient dressés contre les drones, mais est-ce que, au niveau plus concret, on peut voir au niveau de la police, voir des escouades, des groupes d'intervention anti-drones qui vont apparaître d'ici dans les prochaines années ? Merci beaucoup.
À vous trois, je pense que je vais en rester là pour le moment. On constate déjà ces trois questions factuelles, finalement. Donc, le besoin d'information est grand. Madame Zimmermann, peut-être à vous d'abord pour tout ce qui est drone, poste.
Merci pour ces questions. Par rapport au projet que vous avez soulevé, c'est un projet en fait très récent à Lugano avec la Poste et Maternet, qui est une entreprise de drones. Les tests ont commencé sous notre supervision la semaine passée. Donc, on n'est pas encore au point où ça fonctionne. On est au point de vraiment voir comment ça se passe. Et l'idée, c'est en fait d'échanger des tests faits en laboratoire très rapidement entre deux hôpitaux au Tessin. Comment ça va se passer exactement ? Malheureusement, je ne fais pas partie de ces tests, donc je ne sais pas exactement comment se passe l'échange et puis comment les tests, ils sont, dans quelle mesure ils sont lâchés, dans l'autre hôpital. Mais je peux m'imaginer qu'il y a une personne qui est là pour les réceptionner. Par rapport au fait des pertes d'emploi, c'est évident que ça va changer certains métiers. Ça va changer beaucoup de métiers, les métiers de la construction, de l'agriculture, l'ingénierie, etc. Maintenant, je ne sais pas si on peut vraiment parler de perte d'emploi, parce que actuellement, on a encore toujours besoin d'avoir un pilote du drone. Les drones autonomes, c'est pas l'actualité actuellement. Donc, en fonction des opérations, on a aussi besoin de personnes qui surveillent ce qui se passe, des observateurs. Quand on vole, en fait, au-delà de... On appelle ça vision line of sight. Si on vole de façon trop loin, donc on ne peut pas garder le contact en fait, sur le drone. On doit avoir des personnes, des endroits en fait, sur le chemin prévu qui contrôlent que le drone est bien, suit le chemin qui est prévu et puis qui peuvent, si possible, interférer. Du coup, si le drone est tout à coup out of control, qu'ils puissent prendre le contrôle du drone et puis le faire poser, etc. Donc actuellement, on a toujours besoin encore de pas mal de personnes et d'intervenants pour ces opérations. Donc ça va changer, oui. Est-ce que ça va conduire à une perte d'emploi ? Ça, actuellement, je ne peux pas le dire.
Bien sûr.
En fait, moi, j'avais la question justement par rapport à ça, c'est quelle est finalement la place qu'on peut donner à l'avis de la population par rapport à des livraisons par la Poste ou par Amazon ou ce genre d'industrie ou d'entreprise ? Parce qu'on voit en tout cas dans notre enquête qu'on a pu faire auprès de la population que la majorité des gens en fait, n'est pas du tout favorable à l'utilisation des drones pour de la livraison commerciale. Et puis, alors que... A contrario, la population est très favorable à d'autres usages, tels que l'utilisation des drones en cas de catastrophe naturelle, pour aider certains corps de métier comme la police ou les gardes-frontières, pour des missions qui sont vraiment un peu des missions citoyennes ou de sécurité nationale, alors que justement, pour des choses peut-être beaucoup plus privées, où le drone peut venir proche de nous, peut-être avoir un accident, nous livrer même certains articles qu'on aurait même souhaité avoir proche de chez nous, y a vraiment quand même un frein qui est... des voix qui se lèvent un peu contre ce genre d'utilisation. Et finalement, si la population est contre, est-ce qu'elle a un moyen en fait, de s'opposer à ça ou pas ?
C'est une question intéressante. De mon point de vue, je privilégie évidemment aussi toutes les opérations, que ce soit les sauvetages, apporter du sang dans un endroit sinistré, il y a déjà aussi des tests, apporter des médicaments, des vivres, etc. Maintenant, c'est une technologie qui permet un nombre innombrable d'opérations, y compris les livraisons. À ma connaissance, on n'a pas, et c'est pas non plus notre rôle de refuser. On regarde chaque projet de façon indépendante, et puis on fait une mitigation des risques. Puis si c'est dans le cadre de la législation, ou si l'opérateur il a des mesures pour mitiguer les risques, je pense que dans ce cas-là, on va l'accepter. Donc, à ma connaissance, la population n'a actuellement pas le moyen de dire qu'elle veut pas, par exemple, des livraisons.
Moi, si je peux rajouter encore une chose, on est dans un monde qui est en évolution constante technologique aussi. Et puis, c'est quelque chose que je dis toujours. Je pense que le syndicat des cochers, à l'époque où M. Ford est venu avec sa voiture, il a aussi un peu tiré la gueule, si on peut dire. Et si on regarde aujourd'hui dehors, je vois quand même un tout petit peu plus de voitures que de chevaux. Le monde s'adapte. Il y a certains métiers, peut-être, qui vont devoir soit évoluer. Alors, il y a toujours ce problème générationnel. Moi, je ne suis non plus pas étudiant en sociologie, mais il y a ce problème générationnel de gens qui viennent d'une génération et qui ont exercé leur vie un métier que leurs enfants ne pourront plus exercer parce qu'il n'existera plus. Mais il y a aussi la création d'autres métiers, il y a la création d'autres emplois, parce que tout aussi automatisé qu'on puisse faire voler un drone, il y aura toujours besoin d'humains derrière pour le maintenir, il y aura toujours besoin d'humains derrière pour le programmer, il y aura toujours besoin d'humains derrière. Bon, après, on peut partir dans la science-fiction et dire qu'un jour, ce sont les robots qui le feront. C'est peut-être vrai, mais pour l'instant, je pense que c'est dans une évolution relativement normale, juste que ça va des fois peut-être un petit peu plus vite.
Alors, pour revenir sur la question de création de métiers et puis lier ça à la question sur la police, est-ce qu'on aura bientôt une création d'un policier anti-drone, Monsieur Fischer?
Alors, juste pour compléter un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, je suis assez d'accord que personne ne sait ce que va devenir l'espace aérien ces prochaines décennies. Sans doute qu'il y a pas mal de gens qui sont là aux aguets pour exploiter ces couches, ça c'est sûr. Faire livrer son courrier par un drone sur mon balcon, je pense que moi, je ne le verrai peut-être pas, mais certains d'entre vous, sûrement. Maintenant, c'est vrai, en termes de création d'emplois, oui, la technologie crée des emplois. Si on parle de la poste, la distribution, tout ça, c'est sûr que ça va manger des places de travail. Et c'est toute la robotique. Hein, là, on parle de taxer la robotique. Alors peut-être que les taxes prélevées sur les drones livreurs de courrier vont alimenter la caisse du chômage. Mais bon, c'est un autre sujet. Pour en venir à la question de la police. Donc, nous, on est assez préoccupés sur ce qu'on peut amener de positif pour améliorer nos prestations, notre efficacité. C'est sûr que la lutte anti-drone malveillant, pour nous, c'est un thème. Mais évidemment, pour l'instant, comme il n'y a pas trop de moyens, on est un peu attentiste. C'est sûr qu'on a à la police neuchâteloise une équipe de 6 personnes ou 7 qui gèrent un drone, qui est limité dans son domaine d'activité. Mais ces 6-7 personnes seront certainement les mêmes qui seront appelées à utiliser des engins qui, justement, seront peut-être... Mais je ne sais pas si vous imaginez une équipe de militaires ou policiers en tenue spéciale. Non, ce seront des techniciens, des spécialistes en la matière qui vont justement utiliser des outils qu'on pourra acquérir ou qu'on devra peut-être acquérir en fonction de l'évolution, justement, de la problématique et des risques qu'on devra constater à l'avenir.
Prochaine question. Je vais peut-être. Voilà, je vais avancer comme ça. Hein, donc voilà.
Merci. Je dois m'annoncer. Marlène Burry, Père et Gentil, Autrive. Je me pose une question qui va faire sursauter les gens. Autrefois, dans les Upanishads, c'est vieux, des millénaires avant, on parlait de Vimanas. C'était des engins qui circulaient dans le ciel et sous lesquels les gens commençaient à perdre leurs cheveux et leurs ongles. Vous imaginez ce que c'était. Il y a un autre danger que je vois. si ces vimanas, si ces drones vont se promener partout dans la nature, pour les oiseaux qui sont déjà menacés, pour les insectes, pour tout, est-ce que pour tous ces animaux, ça ne va pas aussi être un surplus de danger?
Merci. Je profite pour encore recueillir deux, trois autres. J'avais vu une question, c'était vous-même.
François Schneider, je suis le directeur de la maison Fulmar à Neuchâtel, qui est professionnel dans la stéréophotogrammétrie et j'utilise des drones au niveau professionnel. Moi, ce qui me chagrine un petit peu dans ce débat, c'est le manque d'informations. Les gens ne sont pas du tout informés. Il y a des drones qui ont la grandeur d'un insecte avec une caméra, jusqu'aux drones qui se baladent en Afghanistan, des grands avions. Et là, entre, il y a tout ce qu'on veut. Et il y a le domaine professionnel et il y a le domaine grand public. Et il se vend du grand public à, ben, dans les grandes surfaces comme on veut. Le gamin, il a envie de son petit cadeau de Noël, il demande à son papa son DJI et il le reçoit. Et je pense que ça, c'est une phase qui va venir. Oui, c'est bien, c'est le beau jouet. Puis au bout d'un moment, quand il aura cassé 3-4 fois son truc, ça va s'éténuer, ça va partir. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, et je fais aussi partie, je suis ancien pilote également, et je fais partie du Bureau fédéral d'enquête sur les accidents d'aviation. Et là, nous sommes très sensibles à ça, au risque de collision. Donc, ce qui est important, c'est d'informer les pilotes, en herbe surtout, que d'une part, ben, c'est bien qu'il y ait déjà le flyer de l'OFAC dedans, comme ça, au moins, le papa, il sait qu'il doit avoir une couverture d'assurance suffisante, mais c'est un petit truc, mais quand même, on peut faire des dégâts. Hein? Oui, mais il doit avoir cette assurance, parce que s'il passe avec des hélices en carbone, même avec un petit, il peut faire des dégâts à quelqu'un, il peut couper d'un doigt, c'est quand même un instrument dangereux. Et tout ça, on doit maintenant les mettre, et moi personnellement, dans le monde professionnel, ça marche très bien dès le moment où on demande toutes les autorisations. Quand on est à la rue du Rhône, un dimanche matin, en train de faire des façades, j'ai demandé les autorisations partout à l'OFAC, à SkyGuide et autres, à la police, aux propriétaires des bâtiments. Ça marche nickel. C'est vraiment le système qu'on a pour les professionnels, c'est super. Maintenant, ce qui est gênant, c'est les gens qui s'amusent avec à faire décoller, comme ici à Neuchâtel, à l'aérodrome. On a un drone qui a passé à côté d'un avion, mais à trois fois rien. Donc, parce que le gamin, il était au bistrot au bout de l'acheter, et puis il a monté son drone, puis juste à ce moment-là, bon, on a évité la collision. Il y en a eu plusieurs, comme ça, on le sait. Donc, on a de la chance en Suisse d'être libre. On peut voler, il n'y a pas... La police ne peut pas utiliser d'antidrone maintenant, parce qu'il n'y a pas d'interdiction de voler. On n'a pas de zone interdite, à part quand il y a l'OEF à Davos. Là, on pourrait imaginer avoir un canon à drone, mais je ne sais pas si c'est arrivé. Je ne sais pas s'il y a eu des intrusions de drones au OEF. Je ne crois pas à ma connaissance. Donc, c'est une question d'information. Il faut informer les gens sur ce qu'ils osent faire, sur ce qu'on peut faire, et surtout les gens qui vendent ces drones dans les grandes surfaces, parce que celle-là, le professionnel, nous, on fait attention, on connaît ça, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est tous ces drones qui volent comme ça, à gauche, à droite, pour s'amuser. Et honnêtement, les photos, les petites photos, les petits films de « je vais voir la voisine », moi, j'ai entendu ça qu'une seule fois au niveau professionnel, c'est la ville de Lucerne qui digitalise en 3D toute la ville et qui voulait voler le dimanche matin pour gêner le moins de monde possible. Ils sont passés malencontreusement devant une fenêtre où une dame était en train de s'habiller. Elle a vu ça, forcément, elle a fait tout un cirque, mais ça s'est bien déroulé après. Ils lui ont montré qu'ils ont enlevé les photos qu'ils avaient, etc. Ça s'est très bien passé. Donc, si vous comparez par rapport à la France, hein, vous savez ce que c'est. La France, c'est drastique. Vous devez passer un examen théorique qui est l'équivalent quasi d'un pilote de PPL ici en Suisse, de pilote privé en Suisse. Il y a même la radiotéléphonie qui doit passer. Donc, il y a quand même des notions qu'on n'a pas besoin pour le moment. Et je pense que ça va venir, effectivement, ça va venir. Merci. Mais je pense qu'il faut informer. C'est informer.
Merci beaucoup. Une toute dernière prise de parole avant de vous passer la parole et réagir. On a déjà deux points très importants qui ont été soulevés. La question notamment de la protection de la nature et puis la question de l'information. Moi, j'ajouterais peut-être aussi une petite différenciation par rapport à la question des zones d'interdiction de vol, mais je vous laisserai le faire vous-même. Mais une dernière prise de parole.
Oui, bonjour, Joël Morf. Je n'ai pas grand-chose à voir avec les drones, en tout cas pour le moment. Mais j'aimerais juste revenir sur l'analogie qui a été faite au tout début par rapport à qui s'offusque des personnes qui ont une GoPro sur les pistes de ski. J'aimerais juste dire que jusqu'à maintenant, on pouvait très facilement identifier la personne qui prenait des images. Un paparazzi, à la limite, on pouvait lui courir après. Le problème avec le drone, c'est que je pense que ça déshumanise complètement le rapport à l'image. Et voilà, et je pense pas très vite, une personne pourra gérer plusieurs drones, voire même des drones quasiment autonomes. Quand Amazon vont gentiment commencer à livrer leur colis par drone, il n'y aura pas un opérateur par drone derrière, c'est pas possible. Voilà.
Merci. Je vous laisse librement réagir aux trois personnes, aux trois grands enjeux qui ont été soulevés.
Alors, d'abord, j'aimerais dire une chose. Bon, c'était une bonne intervention tout à l'heure. Au niveau des zones interdites en Suisse, on est loin du WEF. Il y a beaucoup de zones interdites. Il y a les districts francs fédéraux. Vous connaissez comme pilote les DABS, donc ça peut être des zones interdites temporaires. Il y a des zones de reproduction, il y en a une de reproduction d'oiseaux migrateurs dans les marais. Typiquement ici, entre le lac de Neuchâtel et le lac de Bienne, c'est une des zones. Donc, il y a beaucoup plus que ce que la simple lecture du flyer ou bien une petite demi-heure de bouquinage sur le site internet de l'OFAC avec les références au niveau des textes légaux. Et ça, on le voit, nous, on fait des formations d'une semaine. Et je vous jure qu'on arrive à la remplir la semaine. On arrive à faire 5 fois 6 heures, 7 heures de cours. On a un de nos anciens élèves qui est là d'ailleurs. Il pourra vous en parler après. Il y a de la matière. Et puis pas qu'un peu. Et on a plus de 60% de nos élèves qui sont déjà, on pourrait considérer, des professionnels. Donc des gens qui volent depuis un certain moment. Et c'est impressionnant de voir à quel point la plupart de ces gens, il y a des choses extrêmement importantes dont elles ne sont pas au courant ou qu'elles découvrent. Ça, c'est la première chose, je dirais. Deuxième chose, on parlait tout à l'heure des oiseaux. Alors, dans les formations qu'on donne, on a un cours qui s'appelle Drone et environnement, qui est donné par un ornithologue, entre autres. Et on a fait des recherches avec lui. Il y a des recherches qui ont été faites aussi, entre autres, en Afrique. Il y a une étude franco-africaine qui a été faite sur l'impact des drones sur les oiseaux. Ils en ont retiré, ça a été fait, ça fait en 2015. C'est on course. Il y a beaucoup de choses qui sont encore pas claires là-dessus. Et ce cours, il grandit chaque fois, il prend de l'importance. On a défini des positions éthiques. Il n'y a évidemment pas d'obligation, mais on a pu définir des façons de voler où on s'est rendu compte par rapport à ces recherches que le drone pouvait, dans l'environnement, être dérangeant pour des oiseaux à certaines périodes, certains types d'oiseaux. Alors, ça peut devenir très, très complexe, mais c'est quelque chose dont on s'occupe également. Voilà. Et puis, pour la GoPro, oui, je suis entièrement d'accord qu'on ne peut pas nécessairement identifier. Généralement, celui qui vole le drone, c'est celui qui a une télécommande dans les mains et puis qui normalement devrait voir le drone qu'il est en train de voler, mais je suis entièrement d'accord pour dire que ce n'est pas toujours le cas. Je parlais tout à l'heure d'un exemple qui était dans la file des pistes de ski. Quand vous allez skier à Verbier et que vous faites la queue pour monter, je sais pas, aux Atlas, il y en a 25 autour de vous qui ont une GoPro sur la tête. Donc l'identification aujourd'hui avec les casques et puis le reste, je pense que c'est pour moi en tout cas, a priori, c'est un faux problème. Ce sera intéressant de voir le jour où des gens porteront véritablement plainte, peut-être que ça a existé, et quelle en sera la jurisprudence. Mais à mon avis, ça va être complexe.
Juste un commentaire par rapport à la GoPro. Qu'en est-il alors des caméras de surveillance dans les bus, sur la route, partout? Enfin, je veux dire, il y a quelques années, ça, ça dérangeait. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Et actuellement, je veux dire, tout le monde, on les voit pratiquement plus, je veux dire. Il y a aussi une sorte d'habitude de qu'elles soient là, qu'elles peuvent être utiles, quelquefois en cas de, par exemple, d'agression, de délinquance, etc. Et puis aussi, j'aime bien, enfin, on revient toujours avec les drones, on est filmé à son insu, etc. Mais je veux dire, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont une présence, par exemple, sur Internet qui est très, très étendue. On peut avoir accès à plus ou moins toute la vie, les photos, etc. Est-ce qu'on a plus le contrôle parce que c'est nous-mêmes qui mettons ces informations sur Internet, que ce soit un petit appareil qui aurait peut-être potentiellement, il pourrait nous filmer, etc. Peut-être oui, c'est la perception, mais je suis pas sûre qu'au final les données elles soient plus en danger avec un drone qu'avec Internet aujourd'hui.
Oui, par rapport à ce point, je trouve assez intéressant la question de la déshumanisation, parce que je suis d'accord hein, avec les caméras de vidéosurveillance ou d'autres types de manières de technologies en fait, qui vont nous contrôler. La population, en tout cas c'est ce qu'on voit, elle n'est pas forcément contre, elle s'habitue ou de manière inconsciente, de toute façon elles font partie de notre quotidien, donc on n'est pas contre, on n'est pas dérangé, on ne veut pas s'y opposer. Et on voit la même chose avec le drone, les gens ne disent pas non, on n'en veut pas, stop. Mais par contre, on remarque aussi que les gens en fait, nuancent leurs propos suivant d'une part les utilisations et préfèrent, quand ils ont le choix, quand même la présence humaine. Et c'est ce qu'on a vu notamment dans une autre enquête qui avait été menée par le professeur Clauser dans la vidéosurveillance, c'est que les gens, s'ils ont le choix entre une technologie pour les surveiller ou pour pouvoir rendre un espace beaucoup plus sécurisé ou, par exemple, la présence d'un policier ou d'un éclairage un peu plus présent qui pourra permettre de se sentir un peu mieux dans un espace peut-être public, ben on préfère quand même la présence humaine que technologique.
Très brièvement.
Oui, très brièvement, en fait, juste rajouter, moi je trouve des fois, mais ça c'est une analyse un peu personnelle, on a une tolérance aujourd'hui qui est un petit peu inversement proportionnelle à nos exigences. On se plaint quand il y a des caméras, et puis si on se fait agresser, on se plaint qu'il n'y en avait pas. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi dans ma carrière comme pilote d'hélicoptère. Vous connaissez tous, et j'ai rien contre ces gens-là, Mountain Wilderness, qui luttent depuis des années contre l'héliski. C'est ceux qui, quand on arrive à la première rotation le matin avec nos triches clients russes, je fais volontairement quelque chose d'un peu caricatural, sont avec les grandes affiches et disent « Helichi, Schnittkwetz, Frumwald ». Normalement, c'est en suisse allemand, hein, plutôt. Parce qu'ils sont montés à 3h du mat en peau de phoque là-haut. Ben, je suis allé en chercher un au fond d'une crevasse une fois. En hélicoptère, ben, il était bien content. Donc, je répète, je pense aussi de ce côté-là qu'il y a quelque chose. On évolue et c'est clair que des fois, il y a certaines choses qui sont plus dérangeantes, mais ça fait partie aussi de l'évolution. Et puis, pour avoir certains services qui sont devenus pour nous parfaitement normaux, on doit aussi s'attendre peut-être des fois à avoir quelques nuisances en plus.
Je pense qu'une des choses qui sort très clairement de la discussion jusque-là, c'est cette numérisation de notre quotidien. Donc, le drone, évidemment, fait partie d'un ensemble d'évolutions, de technologies qui de plus en plus se généralisent dans notre quotidien. On a parlé de caméras, mais on aurait encore pu ajouter les smartphones. Hein. On a parlé de caméras vidéo-surveillance. On parle de drones. On pourrait parler des capteurs, etc. Donc, un ensemble de technologies numériques qui sont de plus en plus présents dans notre monde, mais qui créent aussi, de par leur présence et de par le potentiel d'action qu'ils offrent, des nouveaux rapports de pouvoir. Et je profite simplement pour donner une petite anecdote. À Istanbul, il y a quelques mois, avec des manifestations qui a eu, on a assisté à une jolie scène, un joli cas, où il y avait un groupe de manifestants qui opposait un groupe de policiers sur le sol, et puis dans l'air, deux drones, un amené par la police, un amené par les manifestants, qui se regardaient aussi mutuellement. Donc, ça crée des nouvelles formes de pouvoir, de contre-pouvoir, des nouvelles manières de contre-surveillance. Donc, ça redéfinit potentiellement des rapports de force entre groupes, entre individus, et ça va en tout cas, d'une manière ou d'une autre, toucher notre société. Simplement, comment ça la touche, comment ça la transforme, c'est ça qu'on essaye de débattre, c'est ça qu'on essaye aussi de trouver via les différentes recherches qu'on mène à Neuchâtel. Prochain tour de questions.
Merci. Bonsoir. J'avais d'autres questions concernant l'écologie, justement. Je voulais savoir déjà quel était l'impact d'un drone. Est-ce que c'était considéré dans la construction de limiter, les gaz à effet de serre, etc. Et aussi, pour revenir à ces méthodes de livraison comme Amazon, est-ce que c'est plus avantageux ou moins avantageux au niveau environnement? Est-ce que ça va apporter un plus? Parce que je suppose qu'un drone va pouvoir, en tout cas pour le moment, transporter qu'un paquet à la fois. Donc, est-ce que c'est plus avantageux d'avoir un drone qui fait des allers-retours dans tous les sens ou des camions qui transportent plusieurs paquets? Voilà.
Voilà. Ouais. Oui, moi, je pense justement pour le point des manifestations. Je pense l'utilisation des drones dans les mains, du côté de l'État, ça peut créer des risques, par exemple. Dans les manifestations, si on ne sait jamais s'il y a un drone qui nous surveille ou pas, ça risque que les gens ne vont plus aux manifestations parce qu'ils craignent que leurs informations sont chez la police et on ne sait pas ce qui va être fait avec ces informations. Et ça peut empêcher les gens à articuler leur opinion politique. Oui, peut-être qu'est-ce que vous disiez sur ça.
Oui, alors François Stalder, je viens du Locle et je m'inquiète un petit peu en pensant qu'il y aurait de plus en plus de drones qui sont utilisés pour diverses fonctions, qu'on aille progressivement dans une pollution sonore ambiante, avec un espèce de bourdonnement permanent, parce qu'il y a toujours un drone ou l'autre qui passerait à proximité, ce qui rejoint un petit peu ce que disait madame par rapport à la faune, aussi aux oiseaux, mais pour l'être humain, d'avoir toujours un espèce de bourdonnement, et ça, c'est quelque chose qui, je dois dire, qui m'inquiète beaucoup.
Merci beaucoup. Monsieur Fischer, peut-être à vous d'abord la possibilité de répondre.
Alors, tout d'abord, j'ai entendu une question très intéressante au niveau de l'écologie. Je vous explique pourquoi je trouve intéressant de pouvoir donner cette réponse. À la police neuchâteloise, on a fait l'acquisition en 2014 d'un drone, un mini-drone qui était à la base destiné à faire de la photogrammétrie. C'est faire un plan d'une situation d'accident, une catastrophe, une scène de crime, voilà, on a un appareil de photo sous un drone qui est calibré, on l'envoie à 20-30 mètres, il mitraille la zone prédéfinie, il rentre, la carte mémoire, on l'enfile dans un ordinateur, et le logiciel nous fait un plan magnifique avec vraiment à la mesure. Donc on a ce drone, et puis son grand défaut, c'est que il est déjà vieux, hein, avec 4 ans, et puis, il n'a pas le retour d'image en direct. Puis on se dit, le retour d'image en direct, on se rend compte que c'est quelque chose qui est super intéressant, par exemple, pour faire des recherches de personnes disparues. Hein, j'ai vécu le cas d'une fille qui devait être internée, une adolescente. Elle est partie dans un champ de vigne. Et puis, pour retrouver quelqu'un dans un champ de vigne, c'est assez compliqué. Donc, quoi d'autre qu'un hélicoptère pour essayer de trouver cette fille? Typiquement, un drone avec un retour d'image en direct, c'est intéressant. D'une part, on l'engage très vite parce qu'on l'a à disposition dans un véhicule d'intervention qui est de permanence H24. Et puis, au niveau du canton, si ce drone il est basé à Neuchâtel, dans un service qui est stationné à Neuchâtel, eh bien, s'il n'est pas déjà en intervention, en moins d'une heure, il va n'importe où dans le canton. Donc, il sera peut-être même plus vite qu'un hélicoptère sur place. Alors là, en l'occurrence, la situation que j'ai vécue avec cette fille qui était partie dans les vignes, eh bien là, j'avais demandé l'intervention d'un hélicoptère. Et puis, typiquement, un drone aurait été bien moins polluant, bien moins cher et tout aussi efficace. Donc voilà pour répondre au côté écologique. Nous, dans notre réflexion au groupe de travail que je dirige, Et c'est aussi l'impact écologique, les nuisances sonores aussi, l'utilisation d'un drone. Quand vous avez un super puma qui survole la zone à la recherche de cambrioleurs avec un FLIR, ça vous réveille, c'est clair. Je ne dis pas qu'un drone va pouvoir faire remplir la même mission, mais dans pas mal de cas de figure, un drone, justement, nous permet de pallier à l'engagement d'un hélicoptère. Juste encore, je rebondis sur le risque au niveau des drones qui filment une manifestation. On est assez loin aujourd'hui de la situation où la police flique tous les manifestants pour ficher les extrémistes de bord gauche ou droite, extrême, etc. Je ne pense pas qu'en Europe, on ait ce genre de choses. Alors oui, il y a des manifestations qui tournent mal, des manifestations sportives, où justement il y a une lutte contre le hooliganisme, une lutte contre les gens qui commettent des infractions très graves. Alors je pense que là, ça mérite quand même qu'on tente d'identifier ces gens-là. Mais politiquement, utiliser un drone pour tenter de contraindre des forces politiques à ne pas venir ou à aller ailleurs, je pense qu'on n'en est plus là aujourd'hui. Et je pense qu'il faut être conscient aussi qu'on est aussi soumis à la loi sur la protection des données. On a un préposé qui vient surveiller toutes les bases de données qu'on a, toute l'exploitation qu'on en fait. Si vous avez une situation, par exemple, dans une manifestation où il y a un ou deux morts, un procureur voudra savoir ce qui s'est passé. Donc, là, légitimement, si on engage un drone, il est clair qu'on va être amené à devoir identifier les personnes qui sont sur les images. Je ne sais pas si je réponds à votre question ou à la vôtre, partiellement, au moins.
D'autres souhaitent compléter ?
Peut-être juste un complément. Les images donc prises par les drones, comme M. Fischer a mentionné, elles ne sont pas, je veux dire, actuellement, les images sont prises par des caméras fixes, des caméras de surveillance, et qui sont aussi soumises aux mêmes règles. Les images par les drones, peut-être on a l'impression qu'il y a plus de flexibilité parce que le drone y vole, mais je veux dire, elles sont soumises aux mêmes règles. Donc le drone, en cas de, par exemple, de problème ou de, je veux dire, d'une manifestation où on doit retrouver des personnes, actuellement, je vois que l'avantage que comme le drone est mobile et puis qu'il pourra peut-être, il aura pris des prises de vue et des angles que les caméras de surveillance déjà existantes dans les stades, dans les manifestations qui sont en place n'auraient peut-être pas vu. Je vois vraiment seulement l'avantage actuellement de peut-être couvrir des angles qui n'étaient pas le cas avant. Mais évidemment, les règles sont les mêmes. Donc on a peut-être l'impression parce que c'est plus intrusif, parce que ça bouge, ça fait du bruit, mais les règles sont les mêmes que pour les caméras fixes.
Juste peut-être encore rajouter un tout petit truc au niveau écologique, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. La plupart des drones sont électriques, donc ça, vous le savez, hein. D'accord, donc, non, mais parce que, comme vous avez posé la question, je me suis dit, peut-être qu'on voit encore certaines personnes le drone avec des moteurs à essence. Ça existe, il y a quelques Chinois qui ont fait dans leurs cours des essais avec des trucs, mais ici, vous en verrez, enfin, ma connaissance pas, je sais pas si l'un d'entre vous l'a. Ça, c'est la première chose. Après, il y a le bilan, en effet, des... Fabriquer une batterie LiPo, la recharger, là il y aurait matière en effet à calculer qu'est-ce qu'on utilise comme électricité, comment on produit cette électricité, c'est l'éternelle question qu'on a aussi avec les voitures électriques, la Tesla typiquement. On dit que finalement il y a une certaine frange de la population qui dit qu'au fond c'est pas moins polluant si on avait tous une Tesla que d'avoir des véhicules à moteur. Là moi je suis pas spécialiste, c'était juste pour dire que pratiquement tous les drones, 99,9% sont électriques.
Donc écologiquement.
Merci beaucoup. Je propose une dernière série de questions. Vous voulez insister là-dessus ?
Oui. Oui. C'est juste. Oui, oui.
C'est juste.
Oui.
Vous avez raison.
Oui, oui, parce que c'est vrai, c'est aussi une forme de pollution. Ça, c'est de nouveau quelque chose sur lequel on est, nous, typiquement, en train de travailler, parce qu'on n'a pas eu d'obligation de la part de l'Office fédéral de l'aviation civile de mesurer, d'avoir de certificat de bruit avec les drones. On n'a pas besoin, c'est en dessous de 250 kilos, il n'y a pas besoin, hein, c'est juste, ça fait, c'est une règle et hasard. Voilà. Mais on va le faire quand même. Bon, c'est évident que par rapport à l'hélicoptère qui vient sulfater des vignes le matin, certains d'entre vous l'ont déjà entendu peut-être, c'est absolument incomparable. La question est de savoir le jour où on a des essaims de drones qui volent au-dessus de nous. Oui, mais je comprends tout à fait, c'est une réalité. Alors, ça, c'est pour l'instant, en effet, relativement difficile à dire, mais ça va être quelque chose qui probablement risque d'être une réalité. On va avoir peut-être une première réponse là-dessus avec, je ne sais pas si vous avez vu, à Dubaï en juillet, ils vont faire des taxi-drones. Alors, je ne sais pas si c'est un buzz du Sheikh de Dubaï, mais en l'occurrence, je crois que c'est quand même un projet qu'ils ont. L'essaim de drones, ça va être quelque chose, en effet, à calculer, mais qui va ressembler pas mal à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Les riverains des aéroports connaissent la problématique. Zurich, ça revient tout le temps. Tous les aérodromes, pratiquement, en Suisse, ça revient. Et il y aura des mesures qui devront être prises. Et aujourd'hui, les pilotes d'aéronefs habités, typiquement, quand moi, j'ai commencé à voler, c'était un truc dont on ne parlait pratiquement pas. Et je sais qu'aujourd'hui, dans la formation pratique des pilotes, et vous qui êtes pilote, je pense que vous avez déjà entendu ça, on apprend très clairement à voler vert ou à voler écolo. Donc c'est devenu en effet une réalité. Et on l'a aussi dans les véhicules, je crois, maintenant, où on apprend au niveau de l'utilisation de l'embrayage aussi à rouler écolo. Donc les choses évoluent, et je pense qu'elles évoluent idéalement aussi dans une bonne direction.
Alors les nuisances sonores, je peux vous raconter peut-être l'expérience que j'ai personnellement vécue. J'en ai deux dans ma vie de citoyen. La première, c'est quand je suis allé skier à Zinal l'hiver passé. Il y avait une équipe de skieurs là qui était en bande, là, ils se filmaient sur une piste. Et là, bien sûr qu'il y a plein de gens qui ont été curieux, ils ont regardé, personne ne s'est plaint de quoi que ce soit. C'était plutôt rigolo de voir les choses comme ça. La deuxième expérience, les nuisances sonores, oui, parce que il se trouve que j'avais un petit voisin, un enfant un peu en bas âge, qui avait ces petites abeilles là, qui faisait aller là pendant un certain temps. Je trouvais ça rigolo, quoi, parce que j'en avais pas vu beaucoup dans ma vie. Et puis il s'amusait avec ses petits copains. Ça avait pas l'air d'être trop gênant, mais d'un côté, je me suis dit, mais c'est vrai que si ils sont tous dans le quartier à jouer avec des drones le dimanche matin, ça va peut-être pas le faire. Mais pour l'instant, on a rien de ce côté-là. On n'a pas de plainte. Encore une fois, je l'ai dit en début de conférence. Il est clair que si on donne de la publicité à justement la protection de l'espace privé, c'est sûr qu'il y aura peut-être des gens qui viendront s'annoncer chez nous pour déposer des plaintes. Voilà, il y a le voisin qui est venu regarder ce que je mangeais dans mon assiette. Ça va sûrement venir, on s'y attend, ma foi. C'est l'évolution, on y viendra. Alors, les nuisances sonores, il y en aura, mais je pense qu'aujourd'hui, la situation permet de dire qu'il n'y a personne qui s'est plaint.
Je pense à un aspect important que je voudrais aussi ajouter. Après, je dois retourner au public pour les questions. Peut-être un aspect important par rapport aux nuisances sonores, c'est quand même, si on compare le drone avec la caméra de surveillance, c'est que la caméra, elle dit rien. La caméra, elle est complètement muette. Le drone, on l'entend. Donc, en termes de surveillance, en termes de conscience de sa propre surveillance, je pense qu'il y a quand même des différences très importantes entre une caméra et un drone, parce que la caméra, elle est parfaitement discrète, elle regarde tout le temps un même espace, donc c'est une véritable surveillance. Le drone, lui, déjà, il fait du bruit, donc on le remarque quand même plus facilement, et puis en plus, et surtout, c'est une manière de regarder le monde depuis le haut, mais qui est parfaitement sporadique, et en tout cas pas très systématique dans la plupart des cas. Donc est-ce qu'on peut encore appeler ça surveillance ou pas ? Autre bonne et grande question, mais en tout cas, du point de vue du bruit, du point de vue des sons que ça émet, je pense qu'il y a vraiment des grandes différences entre l'un et l'autre.
Et l'absence de bruit ? L'absence de bruit, le jour où il n'y a plus rien qui fait du bruit. Parce que là, on parle de choses qui font trop de bruit. Le jour où vous n'avez que des voitures électriques, vous aurez juste de voir l'augmentation des accidents au passage clouté. Voilà, on va décider de leur faire du bruit.
Oui, merci beaucoup jusqu'ici. Parce que avant, M. Clauseau, il a raconté de l'enquête qui a été faite ici avec la population de Neuchâtel. Et aussi, une question, c'était où est-ce que les gens voient le développement de la technologie drone en 10 ans. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez pour votre chaque domaine. Puis une autre chose que je n'ai pas encore bien compris, qu'est-ce que vous voulez dire avec que l'OFAC, elle ne va pas jusqu'à l'industrie, mais elle attend jusqu'à l'industrie vient à l'OFAC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'OFAC, en fait, elle attend jusqu'à quelque chose y arrive pour faire une législation, ou quelles sont vraiment les raisons pour ça? Merci.
Deux questions, je les redis juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Deux questions vraiment sur la technologie même, donc jusqu'où va-t-elle évoluer ces prochaines années et comment change-t-elle en fait le rapport entre l'industrie et le régulateur. Vous aviez une question depuis un moment.
Même plusieurs en réalité. Tout d'abord, j'ai une critique, mais qui est à prendre comme une critique constructive. Je pense que c'est un domaine qui est tellement neuf que ça aurait été utile de montrer la différence entre un drone qui est la grandeur d'un insecte et puis celle qui est un drone de combat américain en passant par nos drones de l'armée suisse. Parce que je pense que pour la plupart des auditeurs, c'est une chose qui n'est pas connue. Ma deuxième question tourne autour de... des systèmes anti-collision. Je suis pilote de planeur pour mon plaisir et l'école polytechnique a mis un système qui est pratiquement généralisé dans tous les clubs, qui est le système FLARM, qui fait que quand vous avez un avion qui doit être équipé du même système dans un certain volume, ça vous avertit de la présence de l'autre avion. La troisième chose que j'étais curieux de savoir, dans combien de temps est-ce qu'on aura des drones entièrement automatisés qui peuvent aller du point A au point B dans les trois dimensions avec un système GPS ou équivalent. Voilà.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va en rester là pour le moment parce qu'on a déjà en tout cas pris ensemble 5 questions. Vous aviez des choses à dire, c'est pas mal, monsieur Fischer.
Peut-être par rapport à l'évolution, je pense que ce soit dans le domaine privé ou public, ben, il y a quand même une forte émergence. Hein. On voit quand même que dans le domaine militaire, on aura bientôt 6 nouveaux drones qui devraient être actifs à partir de 2019. Donc on a, voilà, il y a un plan d'armement qui était accepté et avec une technologie beaucoup plus performante. Sur le plan policier, de nombreuses polices quand même s'intéressent justement à l'acquisition de nouveaux drones. Et sur le plan du privé, on voit que ben, autant pour du loisir ou du commercial, il y a quand même une forte demande et une forte volonté de continuer avec les drones. Maintenant, pour moi, la différence, c'est vraiment au niveau de l'usage qui va faire. C'est vraiment là où il y a la différence. D'une part, est-ce que justement, on va tout simplement continuer à accepter l'utilisation de drones en cas vraiment d'aide à la population et dans des situations d'urgence, d'aide aux citoyens? Et est-ce qu'on va plutôt freiner des nouvelles évolutions peut-être plus commerciales ou de loisirs de la population? Donc il y a vraiment ces deux tendances qui, me semble, sont en train en tout cas de se dégager. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir au travers de l'enquête.
Alors, pour répondre à votre question par rapport à l'identification, je ne me suis peut-être pas très bien exprimée, en effet. Ce que je veux dire, c'est que l'OFAC ne va pas légiférer, donc on ne va pas modifier l'ordonnance actuelle sur les aéronefs de catégorie spéciale pour exiger une identification ou une registration, parce qu'actuellement, il n'y a pas de solution comment le faire. Il y a des idées, il y a des groupes de travail, mais il n'y a pas une solution qui fonctionne. Donc on ne veut pas légiférer parce que ça bloquerait l'innovation, comme je l'ai mentionné en fait au début. Donc on attend en fait que ces groupes de travail ont trouvé des solutions, qu'il y ait quelque chose qui est implémentable et puis qui est, disons, une solution internationale ou bien au minimum européenne, mais on aimerait vraiment un standard global pour ensuite légiférer. Donc dès que la technologie sera arriver justement au point où on puisse avoir un système avec une puce, avec n'importe quoi qui pourra être détecté par exemple par la police via, j'en sais rien, un laser, etc. C'est vraiment des théories. À ce moment-là, quand on aura un système qui fonctionne et qui sera reconnu, on va la mettre dans la loi, mais pas avant. Parce que voilà, on ne veut pas bloquer l'innovation et les progrès. Et puis peut-être juste une chose par rapport, on a beaucoup discuté de l'utilisation commerciale et récréative. Actuellement, il n'y a pas de distinction dans la législation. Et on ne compte pas non plus actuellement distinguer l'utilisation commerciale et récréative pour une raison simple, les risques en fait sont les mêmes. Bien sûr, il y a des types de drones différents qui sont utilisés, mais je veux dire, les risques qui sont actuellement les mêmes, les désagréments qu'on peut avoir sont les mêmes, donc actuellement on ne fait pas de distinction et on ne prévoit pas de le faire.
Donc ce sera une distinction qui sera faite au niveau européen probablement. Oui, d'accord. Donc pour voilà, ça c'est quelque chose d'assez moderne pour dire. Moi je connais le monde du drone depuis quoi 3 ans maintenant, 2-3 ans. Et c'est vrai que quand je vois ça, vous avez des détecteurs de proximité en dessous, vous avez des détecteurs de proximité devant. Vous allez en avoir très probablement dans la prochaine version qui va sortir dans quelques mois sur les côtés et puis à l'arrière. C'est entre guillemets impossible de détruire ce drone. Ma grand-mère aurait pu voler ce drone sans problème. Le FLAM, c'est vous qui avez parlé du FLAM tout à l'heure. Le FLAM, problème du FLAM, c'est que c'est une solution helvético-suisse. Ouais. Donc je pense que Mme Zimmermann l'a bien dit, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus global que suisse et... C'est clair que les Allemands, ils ont une autre boîte qui fait un type de flamme, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Mais si chacun y va de son petit, de sa petite idée, il y a des ADS-B miniatures maintenant qu'on fait. Vous voyez ce que c'est les ADS-B. Il y a des transpondeurs miniatures qui se font aussi. L'idée, c'est vraiment pour les autorités de l'aviation civile aussi, ou pour Skyguide, je dirais surtout, de trouver une solution qui soit applicable dans toute l'Europe.
Juste pour compléter, et puis on va bientôt arriver au bout de la discussion. Donc, on a ce modèle-là, on a celui-là aussi, le tout petit. Voilà. Ça, c'est le tout petit. Oui, j'ai aussi la télécommande, mais ça va pas bien terminer. Donc, voilà. Je veux pas. Et puis, pour quand même aussi terminer avec un drone parfaitement safe, voilà, bien sûr. La culture du drone, les Lego, voilà. Je suis obligé, malheureusement, de clore à ce moment. Un immense merci à vous tous d'être venus pour la bonne discussion. C'était extrêmement intéressant. Beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Un grand merci aussi à M. Igor Chlebny pour l'organisation des cafés scientifiques de manière générale et pour son soutien pour celui-là. Et surtout, un très, très grand merci donc pour nos quatre intervenants, M. George Fischer, Mme Sylvana Pedroso, M. Frédéric Emmeler et Mme Francine Zimmermann. Grand merci.